monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du mardi 20 août 2018. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. Une attaque attribuée à des présumés terroristes fait plusieurs victimes dans l'est du Burkina Faso.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar refuse finalement de signer l'accord de paix. Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Et les États-Unis récusent la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure engagée par l'Iran concernant les sanctions américaines. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Sept soldats burkinabés ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans l'est du pays. Ils se rendaient en renfort dans une localité où des assaillants avaient attaqué une gendarmerie. On fera le point certainement dans cette édition avec Lamine Traoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Nigeria, une collégienne enlevée par Boko Haram en février avec une centaine de ses camarades dans le nord du pays a appelé les autorités à obtenir sa libération. C'est ce qu'ont rapporté ce mardi des médias nigérians, citant un enregistrement présumé de la seule otage du groupe encore détenu par les islamistes armés. Léa Charibou, âgée de 15 ans, fait partie des plus de 100 filles enlevées le 19 février à Dapchi, dans l'état de Yobe. Après un mois de captivité, toutes les élèves de Dapchi ont été relâchées, à l'exception de Léa Charibou, qui aurait refusé de se convertir à l'islam, comme l'auraient demandé ses ravisseurs. Ouverture à la CPI de la dernière phase du procès de l'ancien chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda. L'accusation a dressé un tableau des exactions présumées commises sous ses ordres en 2002-2003 en Ituri. Celui qui était surnommé Terminator doit répondre de 18 crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a plaidé non coupable en 2015. On fait le point avec Nathalie Barche.
Les preuves ont montré, au-delà de tout doute raisonnable, que Bosco Ntaganda est vraiment coupable des crimes dont il est accusé, a dit la procureure Fatou Bensouda, estimant qu'il a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des Patriotes Congolais et de son bras armé, les Forces Patriotiques pour la Libération du Congo. Selon les témoignages, l'ex-chef de guerre a utilisé des enfants soldats, fait des filles des esclaves sexuels et lancé des attaques contre des civils sur des bases ethniques. Ntaganda est accusé d'avoir mené en 2002 une attaque au village de Mongwalou, proche d'une mine d'or, qui avait fait au moins 200 morts. Il était recherché et s'est rendu de lui-même en 2013 pour demander son transfèrement à la Cour pénale internationale. Son jugement sera très suivi après l'acquittement par la chambre d'appel de la CPI du Congolais Jean-Pierre Bemba, qui avait été condamné pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique.
Je vous le disais plus tôt, 7 soldats burkinabés ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Ça s'est passé dans l'est du pays. Ils se rendaient en renfort dans une localité où des assaillants avaient attaqué une gendarmerie. Le point avec Lamine Traoré.
Au moins 7 militaires et gendarmes ont été tués ce mardi dans l'est du pays, selon un communiqué du gouvernement. Selon le ministère de la Sécurité, la gendarmerie de Pama, chef-lieu de la province de la Kompianga, dans l'est, a été attaquée tôt ce mardi par un groupe d'assaillants armés, non encore identifiés. Des éléments de garde ont pu mettre en déroute les assaillants et de circonscrire les dégâts. Les véhicules des forces de défense et de sécurité de Fadangourma, chef-lieu de la région, appelé en renfort, a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Fadangourma-Pama. Le bilan provisoire élevé en mi-journée, selon le gouvernement, fait état de 7 agents des forces de défense et de sécurité tués et 6 blessés, dont 2 grièvement. Les attaques deviennent récurrentes au Burkina Faso. Rien que ce seul mois d'août, près d'une quinzaine de personnes, la plupart des soldats, ont été tués. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Kenya, la vice-présidente de la Cour suprême a été arrêtée ce mardi. Philomena Mwilu est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal. Elle faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre de la même année, boycottée par l'opposition et remportée par le président Kenyatta. La première ministre britannique s'est engagée aujourd'hui pour un nouveau partenariat du Royaume-Uni avec l'Afrique. Theresa May veut que son pays devienne le premier investisseur occidental pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Les précisions de Jean-Roger Bion.
D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique, a déclaré Madame May dans un discours prononcé au Cap, en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. Elle a annoncé dans la foulée une enveloppe de 5 milliards de dollars d'investissement dans les économies africaines. Une réunion pour l'investissement en Afrique est d'ailleurs programmée pour l'année prochaine à Londres. La chef du gouvernement britannique a également souligné l'importance des enjeux sécuritaires. Theresa May s'est entretenue avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, avec lequel elle a signé un accord commercial. Elle a fait savoir qu'elle soutenait le programme de réforme agraire de l'Afrique du Sud, à condition qu'il soit réalisé dans la légalité. Madame May a profité de son passage au Cap pour présenter aux Sud-Africains la cloche récemment retrouvée du navire britannique SS Mendy, qui a fait naufrage en 1917 dans la Manche avec 600 Noirs qui partaient pour le front en France. Theresa May doit mettre le cap mercredi sur le Nigeria où elle rencontrera le président Muhammadu Buhari. Jeudi au Kenya, elle s'entretiendra avec le président Uhuru Kenyatta.
Une ancienne députée sud-africaine met en cause l'ex-président Jacob Zuma dans une affaire de trafic d'influence impliquant la famille d'hommes d'affaires les Gupta. Uche Mentor a raconté ce mardi à la commission chargée d'enquêter sur les affaires de l'ère Zuma comment les frères Gupta lui avaient proposé un poste de ministre avec l'approbation tacite de l'ancien chef de l'État. Les Gupta sont impliqués dans la plupart des scandales de corruption qui ont précipité la démission de Jacob Zuma en février. L'institution de l'islam sunnite Al-Azhar, basée en Égypte, a exprimé sa condamnation de toutes les formes de harcèlement sexuel qu'elle qualifie de péché. Al-Azhar exhorte les autorités égyptiennes à agir. Criminaliser le harcèlement doit être absolu, a ajouté l'institution, pour qui l'habit ou le comportement de la femme ne doit en aucun cas justifier un tel acte et constitue une atteinte à la dignité et à la liberté de la femme. Selon une étude des Nations Unies publiée en 2017, quelque 60% des femmes ont été victimes de harcèlement en Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
10 migrants impliqués en juillet dans un franchissement massif de la clôture entre le Maroc et la ville espagnole de Ceuta ont été arrêtés aujourd'hui. Ces 10 migrants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés au centre d'accueil pour immigrés de la ville sous administration espagnole, selon une porte-parole de la garde civile. Ils sont accusés de violence contre les forces de l'ordre, de coups et blessures et d'associations de malfaiteurs. Plus de 600 migrants avaient franchi ce jour-là la clôture entre le Maroc et Ceuta. En Grèce, la police a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel d'aide à l'immigration clandestine impliquant 30 membres d'une ONG. Trois des suspects, deux ressortissants étrangers et un grec ont été arrêtés, a précisé la police dans un communiqué. Au total, 30 personnes seraient impliquées, 6 grecs et 24 ressortissants étrangers. Bataille judiciaire autour des sanctions américaines contre l'Iran. La République islamique cherche à obtenir la levée des sanctions économiques réimposées par le président Donald Trump. Les États-Unis ont réfuté aujourd'hui la compétence de la Cour internationale de justice dans la procédure. Claire Morin-Jubourg.
Washington s'oppose vivement à la requête de l'Iran. La délégation américaine dépêchée sur place à La Haye défend que la Cour internationale de justice ne devrait même pas perdre son temps à étudier cette procédure, car pour eux, ce n'est pas du ressort de la Cour onusienne de porter un jugement dans le différend entre les deux pays. L'Iran affirme que les sanctions sont des violations flagrantes du traité américano-iranien de 1955 qui prévoit des relations amicales et encourage les échanges commerciaux, même si l'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les sanctions américaines ciblent les transactions financières, les importations de matières premières et les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Les audiences doivent se poursuivre jusqu'à jeudi.
Les députés iraniens ont signifié leur profonde insatisfaction à Hassan Rouhani face aux difficultés économiques et sociales du pays. Le président a tenté de s'expliquer devant le Parlement qu'il a convoqué. Il s'agit de la première convocation de M. Rouhani devant les députés pour s'expliquer. Une séance qui s'est tenue dans un contexte rendu encore plus électrique par le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a annoncé ce mardi la fin de la suspension des exercices militaires alliés sur la péninsule coréenne. Il s'agit, selon lui, d'un geste de bonne volonté après la rencontre de Donald Trump et Kim Jong-un. Par ailleurs, le Japon estime que la Corée du Nord continue de représenter une menace grave et imminente. Dans un rapport annuel, le ministère japonais de la Défense reste méfiant. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manerakiza.
Eric Manerakiza pour la Minute Éco. Au Rwanda, le tourisme a généré 438 millions de dollars en 2017. Par rapport à l'année précédente, Kigali a enregistré une augmentation de 34 millions de dollars. La hausse devrait atteindre 74 millions de dollars en 2018, selon les prévisions. La compagnie nationale rwandaise dessert actuellement plusieurs destinations et améliore l'accessibilité du pays. L'accord de sponsoring avec l'équipe de football anglaise Arsenal, le FC, permettra de rehausser de manière significative l'image du pays. Jusque-là, l'attraction touristique a atteint plus de 173 millions de personnes. Londres veut devenir le premier investisseur occidental en Afrique d'ici 2022. La première ministre britannique Theresa May a annoncé plus de 4 milliards d'euros d'investissement dans les économies africaines. Elle a débuté sa tournée ce mardi en Afrique du Sud. Elle sera au Nigeria mercredi et à Nairobi jeudi. La chancelière allemande Angela Merkel entame également une tournée de 3 jours en Afrique. Elle arrive mercredi à Dakar et poursuivra sa visite au Ghana et au Nigeria. Berlin s'intéresse actuellement à une poignée de grandes économies africaines. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie bénéficient 89% des 10 milliards que l'Allemagne injecte chaque année en Afrique. La chancelière Merkel vise à élargir cette présence.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
De nouveau qualifié pour les quarts de finale en Ligue africaine des champions.
Et oui, la sixième et dernière journée se dispute aujourd'hui. Dans le groupe B, c'est finalement l'Entente Sétive qui accompagnera le TP Mazembe en quart de finale. L'Aigle Noir a validé son billet en s'imposant 2-1 sur le terrain de ses compatriotes du MC Alger. Un résultat qui rend anecdotique le match nul 1-1 entre Mazembe et le Difa El Jadida. Mission accomplie pour Primero de Agosto dans le groupe D. Maître de leur destin et évoluant à domicile, les Angolais ont dominé Mbabane 2-1, suffisant pour rejoindre l'étoile du Sahel déjà qualifiée en quart de finale.
Éliminatoire de la CAN 2019, la liste du Bénin est enfin disponible.
Oui, c'est la première sélection de Michel Dussuyer. Depuis son retour au Bénin comme sélectionneur des écureuils, il a convoqué 21 joueurs parmi lesquels le capitaine Cessegnon, les attaquants Steve Mounier et Michael Poté. Le Bénin compte 3 points après son succès 1-0 sur la Gambie lors de la première journée des éliminatoires. Les écureuils voudront enchaîner le 9 septembre face aux éperviers du Togo, dominés par les Fenech d'Algérie lors de leur première sortie.
Au Maroc, les Lions de l'Atlas feront face au Malawi sans Benassia.
Tout à fait, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a fait appel à 25 joueurs pour la réception du Malawi le 8 septembre. Par rapport aux 23 Lions de l'Atlas du Mondial 2018, on note l'absence du capitaine Mehdi Benarsia. En revanche, plusieurs retours sont à signaler avec le néo-défenseur de Dijon, Naïef Aguerk, le milieu de terrain Nousser Mezaroui, pré-convoqué pour le Mondial, et des attaquants Achraf Benchati et Yassine Bamou.
Transfert pour terminer, Seydou Doumbia a rejoint Gérone.
L'attaquant international ivoirien arrivé libre a signé à Gérone pour 3 saisons, d'après le club catalan qui évolue en première division du championnat d'Espagne. Il avait été prêté par l'AS Rome au Sporting Portugal l'an dernier. Arrivé à Rome en janvier 2015, Doumbia ne s'y est jamais imposé et n'a disputé que 14 matchs sous le maillot giallorosso, inscrivant 2 buts. L'international aux 37 sélections avec la Côte d'Ivoire a ensuite été prêté au CSKA Moscou, à Newcastle, à Bale, puis au Sporting Portugal.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. 7 militaires ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par l'explosion d'un engin artisanal en allant renforcer un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays. Ces dernières semaines, ces attaques ne se produisent plus seulement qu'au nord, mais aussi dans le centre, le sud et l'est. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou le chercheur Jacob Yarapochola. Il est spécialiste des questions de terrorisme.
L'intensité ou la régularité avec laquelle les attaques se sont répétées au niveau donc de la région de l'Est, c'est une nouvelle situation qui est plus ou moins préoccupante. C'est des attaques donc des postes des forêts, l'attaque de postes de gendarmerie, de police et la pose des mines, voilà, sur lesquelles justement les engins donc des forces de défense et de sécurité sautent régulièrement.
Est-ce que l'autorité arrive à suivre?
Tout ce qu'on observe actuellement nous laisse croire que l'autorité est prise de court. Parce que quand vous analysez un peu comment les choses se passent, les terroristes préparent en amont toute l'attaque. Mais quand il s'agit donc de riposter, il me semble que les autorités ne prennent pas aussi toutes les mesures. Par exemple, les terroristes, avant d'attaquer un poste, posent donc des engins de ce type sur le parcours éventuel, le parcours possible donc des forces de défense, et sachant qu'ils vont sauter dessus. Donc, alors que quand ils veulent riposter, ils ne prennent aucune précaution, à mon avis, sur ces types donc de situations. Il me semble qu'ils n'y pensent même pas régulièrement que leur chemin pourrait être miné.
Alors, ceux qui mènent ces attaques dans l'est du pays, d'où viennent-ils?
On sait que régulièrement, le nord, le Sahel, était justement attaqué. Et il y avait aussi donc des attaques sporadiques dans l'est. Maintenant, on a constaté que les attaques au niveau donc du Sahel ont baissé d'intensité et à l'inverse, justement, dans l'est du pays, on reprit le plus bel. Je pense que ce sont les actions conjuguées de l'État par rapport à la zone donc du Sahel qui ont découragé justement les groupes qui sont là-bas et ont en même temps animé leur initiative par rapport à d'autres donc localités. Donc peut-être voir donc les liens entre donc les groupes au nord du pays et les groupes à l'est du pays. De toute façon, il y a une grosse synergie qui est là et qui a un projet commun et c'est à ce projet commun donc de ces terroristes auxquels il faut s'attaquer.
C'était Jacob Yarapochola, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a refusé de signer l'accord définitif de paix pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud. Pourtant, le président Salva Kiir et son rival ont signé le 5 août à Khartoum une déclaration prévoyant le retour de Riek Machar dans son pays pour occuper un des 5 postes de vice-président. Ahmed Al-Dirdiri, ministre soudanais des Affaires étrangères, a annoncé aujourd'hui que les rebelles refusent de signer. Sur les causes de ces derniers blocages, Idriss Fall a joint Mohamed Naji, il est directeur de Soudan Tribune à Paris.
Les dernières discussions étaient sur des sujets sur lesquels les partis étaient déjà en différence. Ils gardaient 4 ou 5 thématiques pour être étudiées à la fin des négociations. Ce qui était le cas pendant ces 3 derniers jours. Parmi les choses qui sont les plus importantes, c'était la question de l'élaboration de la constitution de Sud-Soudan, la médiation. Il a modifié, aussi pour faire plaisir à Juba, il a modifié le mécanisme. Normalement, il y a une conférence constitutionnelle qui devait avoir lieu, c'est elle qui doit être chargée de l'élaboration de la Constitution. Mais à la place, on a fait juste une commission de révision constitutionnelle. Et donc, ça a beaucoup déçu les Riek Machar. Il y a aussi une question qui était déterminante aussi, qui a poussé l'opposition à refuser l'accord.
C'est la division administrative du territoire.
Oui, de l'administration territoriale. L'opposition, elle rejette, elle refuse les 32 régions qui ont été établies par le président Salva Kiir. Et à la place, ils veulent réinstituer les anciennes grandes régions qui étaient avant. Ce genre d'opposition, elle représente aussi des tribus, si j'ose dire. Leurs tribus sont lésées par la nouvelle répartition, la nouvelle division administrative territoriale, parce qu'ils donnaient beaucoup de territoires au Dinka du président Salva Kiir. Et ça, pour eux aussi, ça leur faisait mal et ils ne veulent pas accepter ça.
Mais quand même, ils acceptaient les 5 postes de vice-président.
Voilà, ça aussi, il y a un petit couac là-dedans. Et ça, ils l'ont invoqué dans une déclaration qu'il venait de publier à Khartoum, où il disait que Salva Kiir, il refuse de tenir compte du fait que la présidence maintenant est devenue une présidence collégiale. Et donc, il ne veut pas changer le mécanisme de la prise de décision, c'est-à-dire le processus décisionnel. Il rejette ça. Il veut toujours avoir tout, avoir à lui qui décide tout, etc., sans tenir compte. C'est-à-dire, il veut se donner l'avantage toujours et il ne veut pas concéder à ceux qui ont une consultation.
L'unique chose positive, c'est qu'on peut dire pour le moment, au moins, la trêve est respectée, il n'y a pas de combat.
Mais tout à fait. Moi, je reste malgré tout optimiste parce que dans le Sud-Soudan, il y a un ras-le-bol général, si j'ose dire. Les gens, vraiment, ils ont assez de cette guerre, mais ils ne comprennent pas. Les gens se trouvent complètement, ils ont juste envie de respirer et d'avoir la paix.
C'était Mohamed Nagy, directeur de Soudan Tribune à Paris.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur le drame des migrants. Pourquoi beaucoup d'Africains continuent-ils de se tourner vers la migration clandestine et de mettre leur vie en péril en effectuant la dangereuse traversée du désert et de la mer Méditerranée pour tenter de gagner l'Europe? Pourquoi certains originaires de ces pays, pourtant en paix comme le Sénégal, empruntent-ils également ces routes migratoires? Et que font les pays africains pour retenir leurs citoyens? C'est un Washington Forum spécial ce jeudi à 19h30 en collaboration avec notre télépartenaire Box Télévision à Dakar.
En République démocratique du Congo, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola fait état de 75 morts dans l'est du pays. Comment Ebola affecte-t-elle la vie et les relations des habitants de Beni, zone congolaise frontalière à la fois avec la province de l'Ituri, l'Ouganda et le Rwanda? Eddy Sango a joint sur place l'éditeur du journal Les Coulisses, Nikeze Kibelbeloka.
Les pratiques d'hygiène observées notamment dans le lavage des mains, pratiquement à l'entrée de chaque magasin, boutique, chaque bureau, il y a un seau d'eau avec du savon désinfectant pour se laver les mains. Cette attitude est observée et commence même à prendre corps dans les esprits de la population ici. Il y a ceux d'ailleurs qui se promènent avec des flacons de désinfectants pour se laver les mains chaque fois qu'ils tiennent le poignet. Les gens ne se saluent plus. Même au niveau de l'Église, il est interdit de se saluer par le signe de la paix qui est l'échange de mains.
Quel impact cette méfiance que les gens ont les uns les autres dans les relations, par exemple en famille, à l'école, au travail?
Il se pose aussi un problème au niveau de la rentrée scolaire, parce que en réalité, la rentrée scolaire c'est pour lundi 3 septembre. Et cette rentrée scolaire devra se passer normalement comme à travers toute l'étendue du pays. Bon, là, effectivement, il y a des grincements des dents parce qu'il est difficile pour les élèves de ne pas se côtoyer, de ne pas se toucher. Vous savez, ici, il y a des classes où on s'assoit 3-4 par banc, alors ça pose un sérieux problème.
Les parents ont-ils de la réticence à envoyer leurs enfants à l'école parce que c'est lundi, comme tu l'as dit, la rentrée scolaire?
On ne peut pas reculer la rentrée parce qu'on ne sait pas à quel moment, pendant combien de temps vont durer va durer le traitement pour cette maladie. Donc, si on décrète un mois, six mois, Cela signifie qu'on décrétait l'année blanche. Donc il faut prendre des dispositions, d'autres dispositions pour que les élèves étudient. Mais ce n'est pas facile, il y a assez de réticences du côté des parents. Les habitudes ont la tête dure, on continue à vendre. Ce qui est plus observé, c'est la non-salutation. Les gens ne se saluent plus par la main. Ça, c'est ce qui est plus observé. Mais pour les autres habitudes, ça continue un peu. Vous savez, ce n'est pas facile.
Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de la frontière? Parce que Béni, comme tu l'as dit, est frontalière à 3 pays.
Oui, au niveau de la frontière, notamment la frontière avec l'Ouganda du côté Kasindi, l'OMS a installé un centre de contrôle pour les populations qui traversent.
C'était Nikes Kibel Beloka, l'éditeur du journal Les Coulisses.
Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouverai dans l'émission interactive de VOA Afrique à 18h05, temps universel. Une nouvelle loi au Sénégal impose dorénavant à tous les candidats à la présidentielle de recueillir le parrainage d'un certain pourcentage du corps électoral. La barre a été placée à 52 000 signatures au minimum. Que vous inspire le parrainage politique? Le parrainage permet-il une meilleure expression démocratique? Peut-il contribuer à une meilleure organisation des élections en Afrique? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 et à tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Tchad, poursuite du débat à N'Djamena sur la nouvelle constitution consacrant la 4e République, le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, Max Kemkoy, lance une pétition politique et citoyenne pour exiger le retrait de cette constitution et les ordonnances subséquentes, une initiative soutenue par plusieurs acteurs politiques de N'Djamena, la correspondance d'André Kolmajingar.
Entrée en vigueur le 4 mai 2018, cette nouvelle constitution, selon le président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, menace la vie juridique et le fonctionnement des associations, des organisations syndicales, de presse et des partis politiques. Pour Max Kemkoy, signer cette pétition, c'est rejeter cette loi fondamentale qui oppose les Tchadiens dans leur diversité culturelle.
Cette constitution et les ordonnances subséquentes constituent une atteinte au multipartisme, au système compétitif, au libre exercice des droits et libertés base de la démocratie. C'est pourquoi cette pétition est une fois signée, sera accompagnée d'une requête conforme au protocole et déposée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que devant la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, en plus d'une mise en garde spéciale qui sera adressée à la France et à l'Union européenne, qui continue à fermer les yeux sur les violations massives des droits humains au Tchad pendant que tout est mis en œuvre ailleurs, dans d'autres pays africains, pour défendre et préserver la démocratie, les droits et les libertés.
Pour le promoteur du mouvement, les transformateurs Docteur Succès Masra, cette initiative citoyenne rejoint sa mise en garde contre les hautes autorités du pays, car, dit-il, on ne peut écrire une constitution pour un mandat électif.
Peut-on sérieusement défendre une constitution dans un pays qui a une espérance de vie de 45 ans, qui a 70% de sa population ayant moins de 40 ans, empêcher à cette partie de la population de participer aux instances stratégiques et entériner cela dans la constitution? Peut-on sérieusement entériner dans une constitution que finalement on concentre les pouvoirs entre les mains de cet individu?
François Ndiékombé, un jeune Tchadien qui vient de lancer son parti politique dénommé Union Sacrée pour la République, a déclaré qu'il sera le premier à signer cette pétition, quand bien même que son parti est le premier à être légalisé sous la 4e République.
Il faut donc non seulement annuler la constitution, mais remettre en cause complètement le Forum National Inclusif. Ça n'a pas de sens.
Béral Mbaïkoubou, député à l'Assemblée nationale, soutient également cette initiative, car pour lui, cette constitution est une somme de contradictions totales.
Au préambule de la constitution, on se proclame être irrévocablement laïque et à l'intérieur de la même constitution, on consacre le serment confessionnel. C'est une monarchie élective qui est érigée et de ce fait-là, je pense que c'est une constitution que nous devrions combattre.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph, à la console Alfredo Santos, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Dans un peu moins d'une minute, retour sur l'actualité avec Raïssa Girondin. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.